L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive toutes les semaines.
Ah mais attends, on est le premier jeudi du mois.
Ah oui, c'est l'actuel.
L'émission féministe pour il, elle et elle.
This time, we will do it by ourselves.
Les luttes sont toujours des luttes simultanées.
L'acte de procréation est un acte de liberté.
Non una, dimeno, pas une de moins.
Que l'aborto sea legal.
Ave patriarca.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en direct sur Radio Larzac pour un nouveau numéro de l'actuel. Je suis aujourd'hui avec Meggy du planning familial. Salut Meggy.
Oui, bonjour Sophia.
Alors merci. Aujourd'hui...
Merci de m'accueillir. Aujourd'hui, on s'intéresse au plaisir féminin. Dans cette émission, vous allez entendre des témoignages des bénévoles du planning familial de Millau qui échangent sur ce sujet.
Oui, et toujours à ce propos, nous allons aussi vous lire des témoignages issus du manuel féministe « Notre corps, nous-mêmes » qui a été réédité et republié en français récemment grâce à un travail collectif auquel ont participé entre autres Nina Faure et Liléna Perret, réalisatrices du film « We are coming ». Ce film sera projeté à Millau le mercredi 15 novembre. Vous allez entendre une interview de Nina Faure qui en parle et c'est aussi un peu pour ça qu'on a choisi ce sujet pour cette émission.
Il y aura aussi Carole qui nous a livré une capsule sonore suivie d'une musique. Et donc c'est parti pour une heure d'actualité féministe, à commencer par la revue de presse.
Radio Larzac vous présente la revue de presse, des pages aux voix. I worry
the sun. Oui, merci Meggy. Et avant de commencer cette revue de presse, eh bien, tu es une nouvelle voix dans cette émission. Tu vas participer régulièrement, donc bienvenue.
Oui, merci, je suis très heureuse. Je suis Meggy et donc je travaille au planning familial de l'antenne de Millau. Voilà, j'ai pris la suite de Carole, que je tiens à remercier de son partage de connaissances et de me faire confiance pour cette place. Merci Carole.
Eh bien, merci à toi. Et donc, aujourd'hui, j'ai préparé une revue de presse qui parle surtout de langue et de lettres, mais pas que. De langue, parce qu'on a vu ces derniers jours que le chemin pour l'égalité dans la langue française est encore très loin d'être abouti, voire les pouvoirs publics eh bien, ont fait carrément marche arrière. C'était lundi 30 octobre, à l'occasion de l'inauguration de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Donc Emmanuel Macron était présent et je le cite, il a dit « Dans cette langue, le masculin fait le neutre, on n'a pas besoin d'y ajouter des points au milieu des mots ou de tirets. » Il a ensuite invité à « ne pas céder aux airs du temps ». Fin de citation. C'est une nouvelle qui est rapportée par de nombreux médias dont Le Monde et Libération. Libération où Julie Neveu, maîtresse de conférences en linguistique et membre du collectif des linguistes atterrés, signe une tribune. Quelques heures plus tard, à la même journée, c'est le Sénat qui a voulu ramener sa fraise en votant une proposition de loi, je cite, « visant à protéger la langue française des dérives de l'écriture dite inclusive ». Fin de citation, c'était une proposition portée par la sénatrice Les Républicains, Pascale Gruny. D'ailleurs, elle préfère qu'on l'appelle sénateur. Comme le précise France Info. Donc le texte interdit l'utilisation du point médian et des pronoms neutres comme « yel » ou « celle » dans tous les documents dont le droit exige qu'ils soient rédigés en français, comme par exemple les modes d'emploi, les contrats de travail, les règlements intérieurs d'entreprise, les accords collectifs et de nombreux autres documents. En revanche, il sera toujours possible pour un parti, un syndicat ou une association de produire des textes ou des tracts utilisant l'écriture inclusive. Donc on va bien continuer de l'utiliser ici. Le texte a été adopté finalement au Sénat, mais risque, et on l'espère en tout cas, de ne pas passer à l'Assemblée nationale. Maintenant, passons à parler du travail, puisqu'il va falloir beaucoup travailler pour changer les choses. Mais à partir de 11h25, ce lundi 6 novembre, les femmes commencent à travailler gratuitement jusqu'à la fin de l'année. C'est un calcul symbolique publié tous les ans par la newsletter Les Glorieuses. Il est calculé sur la base de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, qui est de 15% à peu près selon Eurostat, et il est calculé aussi sur la base du nombre des jours ouvrés en France, qui est de 251 en 2023. Donc pour rappeler rapidement le calcul, 15% de 251 correspond à peu près à 38 jours ouvrés. Donc les Glorieuses appellent par ce calcul, par cette opération médiatique, à signer une pétition que vous trouvez facilement en ligne pour l'égalité salariale entre hommes et femmes. Elles demandent aussi à revaloriser les minima salariaux des métiers dits féminisés, d'avoir un congé parental obligatoire et équivalent pour les deux parents. Et sur ces propositions, la newsletter envoie aux travaux de la prix Nobel d'économie Claudia Goldin. La même journée, donc lundi 6 novembre, Neige Sino a remporté le prix Femina du roman français pour Triste Tigre. C'est un récit de l'inceste dont elle a été victime enfant par son beau-père. C'est aussi un essai sur les violences sexuelles. Triste Tigre s'est vu décerner aussi le prix littéraire Le Monde 2023 et figure parmi les meilleures ventes depuis sa sortie, c'est Le Monde qui le rappelle. Le jury du prix Femina cette année était entièrement féminin. Et Neige Sino a dit à ce propos, je la cite, « C'est une fierté, en plus d'être encouragée. Le sujet que traite mon livre, ce n'est pas un sujet ni de femmes, ni d'hommes, ni d'autres. » Fin de citation, prise dans Le Monde. C'est la fin aussi de cette revue de presse avec un petit clin d'œil à Carole sur ce livre, puisqu'elle nous en avait parlé. Mmh. Et donc voilà, ça donne envie de le découvrir davantage. Donc c'est la fin de la revue de presse.
Oui, merci.
Ce mois-ci, il y a quelques événements à Millau dont on peut parler.
Oui, on peut parler ce mois-ci de quelques dates qui ont lieu. Du coup, nous avons le 15 novembre au cinéma de Millau à 20h la projection du film « We are coming ». Une chronique d'une révolution féministe suivie d'un débat donc avec la réalisatrice qui s'appelle Nina Faure. Je te laisse dire deux mots sur la projection We Are Coming, Sophia.
Oui, en effet, j'ai eu la chance de voir ce film Résistante cet été. Donc c'est un récit d'un groupe de femmes qui s'interrogent en fait sur leur plaisir et s'interrogent surtout pourquoi il est si difficile pour les femmes d'accéder au plaisir dans une société qui proclame l'égalité entre les hommes et les femmes. Et en fait, on voit après que cette question est vraiment une porte d'entrée vers beaucoup de sujets qui ont trait au féminisme. Donc, à travers le film, on prend un peu conscience de tous ces sujets. On voit beaucoup de groupes de paroles qui ont été filmés, de conversations entre femmes qui sont très touchantes. Et aussi, on voit la réédition de notre corps nous-mêmes, dont on va parler aussi dans cette émission. Donc voilà, je vous invite vraiment à venir le 15 novembre à Millau. C'est une chance d'avoir aussi la réalisatrice qui sera là.
Très bien. Oui, la projection sera accompagnée d'une chorale féministe qui s'appelle Poil à gratter. Tout ça est en partenariat avec le planning familial et Occitanie Film. Nous avons dû annuler le 16 novembre, en partenariat avec le Pic Vert, un événement en soutien du planning familial suite à un incendie. Nous les soutenons en tout cas pour cette catastrophe. Nous avons ensuite le 25 novembre la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes qui commencera le 24 novembre par un atelier de bien-être, habiter son corps, animé par Anaïs Nicolos. Est un atelier destiné à toute femme qui ont vécu ou qui vivent des violences. Si les personnes le souhaitent, appelez au 06 65 60 51 75. Et je rappelle que le 25 novembre, la journée internationale se passe dans le centre-ville de Millau, où nous aurons des stands pour échanger, informer, sensibiliser. Tout ça à partir de 15h. Le numéro pour femmes victimes de violences sexistes ou sexuelles est le 3919. Voilà.
Merci Maggie pour ce rappel. On peut aussi dire que c'est un numéro gratuit.
Oui, exact. C'est gratuit et anonyme.
Donc c'est la fin de cet agenda et on rentre un peu plus dans le vif du sujet, donc dans le plaisir. Pour ouvrir le sujet, on vous propose d'entendre un témoignage de Manon, qui est bénévole au planning familial et qui nous a raconté son rapport au plaisir. On se voit aujourd'hui pour parler du plaisir, à l'occasion du film We Are Coming de Nina Faure, qui sera projeté à Millau le 15 novembre. Et dans le film, on voit que pour elle, le plaisir a été une porte d'entrée dans le féminisme. Et donc pour commencer, je voulais te demander quelle a été ta porte d'entrée à toi dans le féminisme et dans le planning familial où tu es bénévole aujourd'hui.
Alors moi, je ne dirais pas que c'est le plaisir ma porte d'entrée dans mon féminisme. Je dirais que c'est l'avortement. Parce que c'est un sujet que j'ai vécu d'une manière assez douloureuse à l'époque. Aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. C'est pour ça que j'en parle assez librement. Et j'ai été super bien entourée. Je me suis vraiment créée un écosystème autour de moi, des petites routines bien-être, des choses qui m'ont portée et qui ont fait la femme que je suis aujourd'hui. Et du coup, vraiment, je me suis dit, ok, je vais aller au planning familial pour justement pouvoir aider toutes les personnes qui sont dans ces processus-là et pouvoir leur emmener à mon tour un peu d'aide. Voilà. Ah, le plaisir, c'est un mélange de sensualité, de sexualité, de découverte, de rencontre, de partage. Ça m'évoque plein de mots assez doux et positifs.
En parlant de plaisir, du coup, dans la sexualité, est-ce que c'est quelque chose de compliqué pour toi à atteindre? C'est, voilà, quel a été ton chemin là-dedans?
Je dirais plus maintenant. Pendant longtemps, ça a été difficile à atteindre parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps, mais je plaçais le plaisir de mon partenaire avant le mien. Je faisais des choses qui ne me ressemblaient pas forcément et avec lesquelles je n'étais pas forcément d'accord. Et à contrario, je voulais faire des choses, mais je n'osais pas les faire en me disant que ça allait donner une image de moi négative, alors que pas du tout. Donc, on va dire que le plaisir est arrivé dans ma vie il y a 1 ou 2 ans.
Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour toi de jouir?
Je pense que c'est beaucoup de communication avec son partenaire. Moi, il y a beaucoup d'amour dans mon couple aussi, donc ça aide vachement. De la découverte, des essais aussi. Donc du coup, qui dit essayer, dit se tromper. Et c'est comme ça qu'on arrive à quelque chose proche du véritable plaisir et de la véritable jouissance, sans forcément la théâtraliser.
Qu'est-ce qui, toi, te fait jouir?
Quelque chose de fondamental aujourd'hui, c'est la masturbation en solo. Ça m'a énormément aidée. J'ai commencé à masturber à l'âge de 25 ans. Enfin, non. En fait, je pense que je me suis toujours masturbée. Quand j'étais petite, je me frottais à des doudous ou à des coussins ou à des choses comme ça. Mais je ne savais pas que potentiellement, enfin, voilà, il y avait un attrait avec la sexualité. J'ai un peu arrêté ensuite dans mon adolescence. Et là, j'ai repris à l'âge de 24-25 ans. Et en fait, je me suis rendu compte de tout ce que ça m'apportait en termes de bonne humeur, en termes de connaissance de mon corps, en termes de découverte de mon corps, et même ça a apporté à mon couple. C'est vraiment un point qui nous a fait tous grandir, que ce soit moi, mon couple, ma vision des choses.
Et quand tu dis que ça a apporté quelque chose à ton couple, c'est que tu connaissais par exemple mieux les endroits qui te faisaient jouir et...
Tout à fait. Bah, la zone du clitoris, je crois que je l'ai connue il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que nous, depuis toujours, enfin moi je me souviens en SVT, très grossièrement, un homme, ça a un pénis et une femme, ça a un trou. Donc, en fait, la vision de notre vulve, elle est complètement fausse. Et en fait, ça s'ancre dans nos mentalités. Et au final, c'est compliqué de tout déconstruire, en fait. Heureusement, à l'aide de beaucoup de conversations avec mes amis, à l'aide de livres, à l'aide de ma masturbation, ben, j'ai compris que non, il n'y avait pas qu'un trou, qui est d'ailleurs... l'entrée du vagin, il y a aussi un espace et un organe qui est dédié à ça, qui s'appelle le clitoris. Et une fois que tu l'as manipulé, que tu as compris comment il marchait, c'est complètement fabuleux.
Donc finalement, c'était aussi un peu ta prise de conscience féministe qui t'a amené à jouir davantage?
Ouais, c'est ça. Et même après, j'ai eu des partenaires qui faisaient pas forcément attention à mon clitoris et je leur ai dit, mais en fait, mec, t'as complètement oublié quelque chose là, tu vois. Donc vraiment, ça m'a fait vachement avancer dans cet état d'esprit, ouais.
Et aujourd'hui, quelle place prend le plaisir dans ta vie sexuelle, mais pas que?
Je dirais qu'il prend une grosse place quand même. C'est quotidien. Je pense pas qu'il est nécessaire de le réguler. Ça vient en fait. Des fois, j'ai le temps, donc je prends ce moment pour moi, parce qu'en fait, c'est un moment aussi de bien-être au final. Un moment pour moi, un moment où c'est intime et il n'appartient qu'à moi, ou alors avec mon partenaire. Mais il prend une grosse place parce que ça me fait du bien et ça me permet d'être bien dans ma tête, en fait, aussi.
Du coup, t'as dû dépasser aussi une certaine honte pour arriver à cet état de bien-être-là et de pouvoir en parler aussi.
Ah bah oui, moi j'ai encore des copines, quand je dis que je me masturbe, mais comment ça, mais moi je fais pas ça, c'est bizarre et tout. J'ai encore des discours comme ça et c'est bien parce qu'on en discute et je pense que même si certaines sont pas prêtes encore à l'entendre, je mets une graine au final en elles et peut-être qu'un jour ça, enfin j'espère en tout cas pour elles, que ça viendra à leur tour, mais oui j'ai encore quand même, du côté amical féminin c'est des discours comme ça, ou pas du tout d'ailleurs, hein. Il y en a qui disent ouais moi aussi, et on se donne des petits tips etc, et du côté masculin c'est ah bon tu te masturbes, nanana, mais tu fais ça comment, enfin voilà, un peu lourdeau quoi.
Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui aurait du mal à jouir et qui aurait peut-être un peu honte d'en parler ou qui aurait du mal à y aller juste?
Je dirais que je pense que la société nous fait aussi croire que la masturbation, ça doit être intense, fort, ça veut forcément dire éjaculer, etc. Alors que pas du tout. La masturbation, ça peut aussi être des caresses, ça peut être vraiment un toucher très subtil, d'y aller à son rythme, de se mettre dans des conditions dans lesquelles elle se sent en sécurité. Moi, je sais qu'au tout début, quand je me masturbais, j'avais changé mes draps, je mettais des petites bougies, de la petite lumière, enfin voilà, je mettais de l'encens que j'aimais bien, je me mettais vraiment dans mon petit cocon, j'étais sûre qu'il n'y avait personne à la maison. Vraiment, au tout début, j'essayais vraiment de me créer une petite atmosphère cool dans laquelle je savais que c'était OK. Je lisais énormément de livres érotiques, et du coup, ça me permet de travailler mon imaginaire, et j'ai commencé comme ça. Se masturber, c'est pas comme ça en deux-deux avec un porno ou quoi que ce soit. Non, ça peut être tout autre chose. Et c'est là où on touche du doigt le bien-être pour moi. Et le moment à soi.
C'était le témoignage de Manon sur le plaisir. Merci beaucoup à elle d'avoir parlé avec nous.
Oui, merci Manon. Toujours sur ce sujet, on voulait maintenant vous lire quelques témoignages issus du livre « Notre corps, nous-mêmes ».
C'est ça, il y a un grand chapitre consacré aux sexualités. Et donc je commence à lire le premier témoignage. La première fois que j'ai éjaculé, c'était avec un sextoy dont les vibrations étaient très puissantes. Je stimulais mon clitoris et au tout début de l'orgasme, j'ai senti un liquide couler entre mes jambes. Je pense que la surprise a un peu raccourci mon orgasme. J'ai vu une tache, ça n'avait aucune odeur. Depuis, ça m'est arrivé plusieurs fois, toujours avec le même sextoy. Parfois, pendant que je fais l'amour avec quelqu'un, je sens cette envie de faire pipi juste avant d'éjaculer, mais ça n'arrive pas. Je ne sais pas si c'est parce que les stimulations ne sont pas assez puissantes ou parce que inconsciemment, je ne me retiens plus. C'était Salomé, 31 ans.
J'ai eu une histoire particulière avec un homme qui avait développé une sexualité sans érection. On a imaginé des pratiques bien à nous, sans pénétration. Et j'ai eu du plaisir comme jamais avec d'autres. Ça a été un gros point difficile quand on s'est séparés parce que je n'arrivais pas à imaginer autre chose. Sylvie, 45 ans.
Dans la vie, il y a des moments où il n'y a pas de désir. Je ne trouve pas que ce soit grave. C'est un fait. Il y a plein d'autres choses. Vivre avec quelqu'un, partager, mais sans relation sexuelle. Moi, je pense que c'est possible. Même par période, en fait. Nicole, 61 ans.
Il me semble que la majorité des hommes trouvent une satisfaction rapide dans le rapport, parce que, quand ils en ont envie, ils peuvent faire l'amour et avoir un orgasme en moins de 10 minutes. Ça me paraît alors facile d'avoir spontanément envie de faire l'amour, alors que moi, je dois m'exciter mentalement, puis physiquement, et je ne sais pas si je vais jouir, parce que je jouis moins souvent. Lou, 32 ans.
L'orgasme, c'est parfois des images qui viennent en rafale, des couleurs, des cris, des spasmes qui secouent mon corps. Il arrive que j'en pleure ou que je ne supporte plus qu'on me touche, parce que mon corps est devenu trop sensible. Camille, 35 ans.
Le sexe avec des personnes trans, c'est vraiment fabuleux parce que, justement, tu n'as plus d'évidence. On parle de choses dont on n'avait pas parlé avant. Comment tu nommes telle partie ? Déjà, le sexe entre Gwyn, t'as pas le manuel. Du coup, tu ne sais pas trop comment on fait. Tu es obligé d'inventer. Mais alors, le sexe entre personnes trans, t'es vraiment, vraiment obligé d'inventer ? Ça peut aller dans tous les sens. Alex, 37 ans.
Merci, Maggie.
Merci, Sophia.
Donc, c'était quelques témoignages du manuel Notre corps nous-mêmes.
On passe maintenant la parole à Carole, qui nous a envoyé une capsule sonore sur le plaisir. Et c'est suivi d'une musique qu'elle a choisie, de Zao de Zagazan.
Chers auditeurs, Mia voix, ce bonjour. Je suis une personne à vagin et à clitoris, entre autres. Au début, je me suis dit que j'allais vous raconter comment on éjacule quand on a un vagin, vu que j'avais découvert, il y a quelques années, que les personnes à vagin pouvaient éjaculer. Et vu que je l'avais expérimenté et que j'avais éjaculé, je me suis dit « Banco, je raconte ça ». Mais la semaine dernière, en ayant un rapport charnel avec la quatrième fille de ma grande vie sexuelle, j'étais grande parce que je n'arrive pas à compter avec combien de mecs j'ai couché. Donc, je disais, pendant que je couchais avec la quatrième fille de ma grande vie sexuelle, j'ai eu une épiphanie, une révélation. Je me suis dit, je vais plutôt parler pendant cette chronique de consentement. Oui, voilà, nous, avec, appelons-la Johanna, nous faisions l'amour. Tout était chouette et c'était très, très, très chaud. À un moment, Johanna se concentre pour me donner du plaisir, en s'approchant de mon sexe et en défusionnant un peu nos corps. D'un seul coup, ce moment de plaisir bascula dans de l'angoisse et je me suis sentie tétanisée. Mais je simulais l'absence de problème. Johanna m'a demandé deux fois si ça allait. J'ai répondu « Oui, oui, les deux fois. » Plus le temps glissait, plus mon corps se sclérosait. Je me sentais anéantie. Elle m'a dit « Non, ça va pas. » J'ai dit « Non. » Elle m'a dit « Tu es en sécurité ici. » Et j'ai pleuré. Bon, là, vous vous demandez sûrement où je veux en venir. Sauf si vous aussi vous êtes en train de pleurer. Si vous pleurez, c'est que vous comprenez. Ça parle de ce que les personnes qui n'ont pas respecté notre consentement ont fait à notre plaisir pour l'éternité. J'ai mis du temps à comprendre cette sensation, cette angoisse. Quand elle m'arrivait avec des mecs, je leur en parlais, mais à chaque fois, ils se vexaient et le prenaient personnellement. Là, Johanna, elle a compris. Elle a compris tout simplement parce qu'on a longtemps parlé consentement avant de faire l'amour. On a parlé de nos violences vécues, des pratiques sexuelles qu'on ne pouvait ou ne voulait pas faire. Et pourtant, malgré tout, cette angoisse est arrivée parce qu'on ne peut pas choisir comment on cicatrise de ces violences sexuelles vécues. Mais, malgré la tristesse, il y avait de la joie dans ce moment car elle a été la première à respecter mes émotions. Les accompagner dans la bienveillance. Ça a été une relation charnelle, avec en plus du plaisir sexuel, le plaisir de la libération profonde des émotions et d'être épousée dans son entièreté. Après tout ce mélodrame, je ne vais pas vous laisser sur votre faim. Je vais vous révéler mes petits secrets pour éjaculer quand on a un vagin. Alors en soi, c'est pas la compète, hein. C'est juste que de mon côté, chercher à éjaculer, ça m'a permis d'apprendre à aimer un peu mon sexe, à l'ouvrir sur l'extérieur, à libérer un peu mon plaisir. Il faut dire qu'avant, lorsque je couchais avec un gars, je contractais mon vagin pour faire plaisir à mon partenaire. Je partais de très loin. Pour éjaculer, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Avez-vous déjà eu, et là je m'adresse aux personnes à vagin et clitoris, envie d'uriner lors de vos ébatories? Eh bien, ce n'était pas l'envie d'uriner, mais plutôt une sensation méconnue qui est celle de l'envie d'éjaculer. Comme pour les personnes à pénis, on ne peut pas faire pipi quand on est excité, quand le clitoris bande. Oui, le clitoris bande. L'éjaculat, c'est un liquide mix qui est produit par la prostate féminine, autrement appelée les glandes de Skene, et la vessie. Mais ce n'est pas du pipi. Il y a une très faible concentration d'urine. Si vous souhaitez du grand spectacle, devenir la fontaine de votre partenaire, il faut tout simplement boire 1 litre d'eau avant. Les meufs dans le porno font ça. La zone magique à stimuler sans modération et de manière plutôt énergique, voire brutale, c'est la zone G. Elle est très simple à trouver. Personne à vagin, attention, c'est votre moment. Prenez votre index et votre majeur. Crochetez-les, mettez la main sur votre pubis, allez chercher la zone G tranquillement. Elle est à 2 phalanges de l'entrée, elle fait la taille d'une pièce de 2 euros et elle est granuleuse. Une fois que vous l'avez sous les doigts, amusez-vous. Restez excité en faisant en parallèle ou en alternance des trucs qui vous maintiennent bien au chaud, c'est-à-dire bien excité sexuellement. Et là, hop, dès que vous avez envie de faire pipi, vous poussez comme si vous alliez sortir quelque chose de votre vagin. Et là, ah, éjaculer, c'est comme sortir la bête en nous. C'est aussi frais qu'un bain dans une rivière paradisiaque. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours téléphoner au planning familial de Mio ou venir le 16 novembre. Au Pivert, nous rencontrer à la table d'information dédiée au plaisir. Donc on a dit quoi? Le plaisir, c'est évidemment l'aventure et le consentement. Sortez couverts. Bisous.
De ses vaisseaux, au rythme de son cœur, coule et donne à boire à des bouches au hasard. 1001 personnes, des amis, des amants, viennent boire impunément. Dégorgé de son sang, des hommes, les hommes, ces hommes, gastrolâtres et gourmands. Gastrolâtres et gourmands viendront dévaliser toute la fontaine de sang.
écho péliprement l'insatiable parent a tué ses enfants. La fontaine tarie, elle retrouvera la vie une fois que ses ennemis ne seront plus de son temps.
C'était La Fontaine de sang de Zao de Zagazen sur Radio Larzac. Nous sommes toujours dans l'actuel, l'émission féministe, aujourd'hui consacrée au plaisir.
Oui, à l'occasion de la projection du film We Are Coming de Nina Faure, j'ai eu la chance de l'interviewer cet été aux Résistantes, donc on l'écoute. On écoute son interview qui est entrecoupée de quelques extraits sonores du film et du débat qui a suivi.
Nina, vous présentez ce soir votre film We Are Coming. D'où il est né ce film ?
C'est un film, je pense, qui naît autour de la nécessité de raconter le monde depuis notre propre yeux. Quand on est une femme ou une personne minorisée de genre, il y a une réalité qu'on s'autorise peu à voir, tellement habituée à regarder les choses à travers un regard masculin. Et là, c'est comme un vaste récit collectif d'une nouvelle façon de voir le monde et d'une révolution féministe.
En fait, on avait vécu presque une révolution. Ça avait commencé à peu près comme ça en 2014. À l'époque, ce qui me préoccupait, c'est que les hommes aient plus de plaisir que moi au lit.
Pourquoi donc les femmes jouissent-elles moins souvent que leurs mecs ?
Je découvrais que j'étais pas la seule à avoir des problèmes de plaisir.
49% des sondés affirment régulièrement avoir du mal à jouir. Côté femmes.
Et avec Yelena et toutes nos copines, on s'est mis à parler de ça beaucoup, de plus en plus.
Et donc tu rêves d'être dans une relation pour pouvoir genre construire un plaisir plus où tu te connais mieux, où c'est parce que on est tous d'accord qu'il faut apprendre à chaque mec que tu rencontres de faire un cuni, etc. quoi. Pas tous, mais
non, c'est pas vrai.
Je me disais que je pourrais faire un film sur le plaisir féminin. En fait, je pensais que j'avais une sexualité libre. Et puis un jour, j'ai découvert que je connaissais même pas mon anatomie.
Et du rapport au corps.
Oui, ça part de questionnements sur la sexualité, notamment la difficulté d'accès au plaisir pour pas mal de personnes dans cette société et de groupes de parole qui permettent de prendre conscience de ça et aussi d'amener des pistes de transformation. Donc le film se questionne là-dessus et puis va bien au-delà.
Et du coup, c'est un film plutôt documentaire, c'est une fiction, c'est un peu entre les deux ?
Non, c'est un film documentaire filmé sur une dizaine d'années qui part de questionnements assez intimes mais qui va vers du collectif de plus en plus. Ça commence au jeu et ça finit au nous, un nous très très vaste.
Et on sait très bien ce qu'il nous reste à faire parce que notre plan est fin prêt. D'ailleurs, ce qu'on imagine a déjà un peu marché par le passé. C'est une histoire peu connue, mais en 1975, en Islande, il y a eu une grande grève générale où elles ont toutes arrêté de travailler, mais aussi de s'occuper des enfants et de faire à manger. Et en fait, en une journée, tout le pays a été bloqué. Il n'y avait plus d'école parce que plus d'institutrices, plus d'avions parce que plus d'hôtesses. Et les hommes ont dû aller au travail avec les enfants. Les employeurs achetaient des crayons pour les occuper. On a très peu d'images de ça, mais les Islandaises ont réussi à provoquer la quasi-fermeture du pays en une seule journée d'action. Et après ça, des lois ont changé. La première présidente élue au suffrage universel au monde a été élue en Islande. Et aujourd'hui, c'est le meilleur pays en termes de classement égalité femmes-hommes à l'international. Alors ça n'a pas suffi à abolir le patriarcat. Mais si on tenait 4 ou 5 jours, peut-être.
Votre première réalisation ?
Alors j'ai fait plusieurs courts-métrages et j'ai co-réalisé un autre documentaire. Là, c'est le premier long-métrage documentaire que je réalise seule.
Et donc, quelle a été votre démarche ? Vous êtes allée à la rencontre de beaucoup de collectifs ?
Oui, en fait, on a commencé à se poser des questions à quelques-unes. Et puis, de plus en plus, on a aussi participé à l'actualisation d'un manuel féministe qui s'appelle « Notre corps, nous-mêmes », que j'ai participé à réécrire. Et puis, en fait, de plus en plus, il y a eu des groupes, il y a eu des manifestations, il y a eu cette montée en puissance du mouvement féministe, cette lutte qui est devenue une des luttes les plus importantes de notre époque et que j'ai documenté de l'intérieur avec ce regard très personnel de partir d'une amitié, parce que c'est avec ma meilleure amie Yelena Perret qu'on fait tout ce parcours d'essayer de comprendre l'état du monde et puis de chercher les transformations ensemble quoi.
Et vous avez parlé aussi de la revue, plutôt le livre Notre Corps Nous-Mêmes. Quelle est la différence entre le média écrit et le média vidéo? Qu'est-ce qu'ils permettent pour raconter cette histoire-là?
Je crois que le livre, c'est comme avoir chez soi tout un lot d'amis, de témoignages, de refuges, un endroit dans lequel on peut trouver des solutions et à la fois du réconfort. Et que le film, c'est créer une représentation du monde qui nous manque et qui est sans cesse approprié par l'hétéropatriarcat.
Donc on s'aperçoit que finalement, lors d'une pénétration, il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas d'orgasme dit vaginal, mais plutôt un orgasme d'origine clitoridienne, puisqu'en fait, le clitoris est stimulé.
Le pire, c'est qu'aucune des autres copines n'était au courant non plus.
En fait, avec toutes ces réflexions que je venais de découvrir, j'étais en train de comprendre plein de trucs. Est-ce que t'as des gars qui disent, par exemple, moi j'ai jamais joué dans un rapport?
Je ne connais pas. Avec
une? Ouais.
Moi, clairement, ça m'a rien.
Non, mais j'ai des gars qui disent j'ai jamais joué dans mes rapports hétérosexuels.
Ça peut arriver une fois.
Parce que quand même, globalement, si on parle d'accès à la jouissance, le fait que les nanas disent j'ai jamais joué dans mes rapports hétéro, c'est assez fréquent, en fait. Non, là, ils étaient sûrement pris de court parce que j'avais sorti mes grandes questions comme ça à l'apéro. Mais ensuite, quand j'ai demandé à mes potes s'ils voulaient participer à déconstruire la domination masculine dans nos vies sexuelles, en fait, ils n'étaient pas chauds.
Ah oui, je suis bien d'accord. Merci beaucoup pour cet accueil, je suis toute... C'est bien, on a fait du bruit, enfin vous surtout.
Le plaisir féminin, j'en ai entendu parler des masses. L'insatisfaction féminine... C'est marrant comme c'est vachement plus tabou. Merci pour ça.
Ah mais c'est intéressant cet axe parce que nous-mêmes on n'y croyait pas au début. On disait on va faire des groupes de parole sur le plaisir. J'en faisais plein à Montpellier et tout et ça ne veut, enfin jamais on parlait de plaisir quoi. Alors je dis pas que absolument personne n'a de plaisir, mais c'est juste que l'urgence c'était de parler de ça. Et l'urgence c'était de parler de ça et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une forme presque de allez j'emploie les grands mots mais de censure politique sur le fait de parler de ça sous cet angle là et je vous dis ça parce que par exemple quand on a présenté le film au CNC, donc le Centre National du Cinéma, on a été reçu en commission d'avance sur recette, moi j'y croyais à mort, on était en 2018, on s'est dit là c'est le moment quand même pour qu'un film comme ça ait de quoi se faire, et là il y a une femme qui me dit oui mais votre film il est pas représentatif de l'ensemble des femmes parce qu'il y en a qui aiment la soumission au lit. Quelle ne fut pas notre surprise. Et alors au début je comprenais vraiment pas cette phrase. Je me disais non mais d'accord, mais enfin pourquoi pas, mais enfin je comprenais pas. Et après j'ai compris, j'ai mis longtemps mais j'ai compris. Je me suis dit ah mais en fait c'est qu'on n'a pas mis un espace dans le film où il y a des femmes qui disent on adore ce que les hommes nous font. En fait, c'est ça, c'est ce qu'il faut, c'est ne pas parler d'insatisfaction. Ce qu'il faut, c'est dire tout va bien. Et à partir du moment où des dominés participent à leur propre domination, ce qui est le cas, hein, je ne dis pas le contraire, mais tout d'un coup, c'est bon, on peut s'en laver les mains, voyez.
C'était donc l'interview de Nina Faure. Et merci à Fiona pour ce montage, Fiona de Radio Escapade.
Oui, voilà, qu'on aura l'occasion de rencontrer le 15 novembre au cinéma de Millau, Nina Faure. Merci.
Tout à fait, et donc on arrive... presque à la fin de cette émission, mais avant de conclure, on a aussi échangé avec Charlotte, toujours bénévole au planning familial. Elle aussi, elle nous a parlé de son rapport au plaisir, et comme à Manon, je lui ai demandé pour commencer quelle a été sa porte d'entrée dans le féminisme. On l'écoute.
C'est une question qui m'a beaucoup fait réfléchir. Moi, j'avais un rapport à la féminité, au féminisme un peu spécial, un peu controversé quand j'étais plus jeune. J'avais des pensées féministes, beaucoup de sentiments d'injustice, notamment en tant que femme. Mais j'aimais pas le féminisme parce que je trouvais ça assez excluant, je trouvais ça assez spécial de faire ça contre femmes aussi. Je trouvais que ça devait être un sujet ouvert aux hommes. Et je suis allée à un cercle de femmes et c'est à ce moment-là en fait que j'ai découvert et réalisé l'importance de se retrouver entre femmes, la puissance qu'on peut avoir aussi entre femmes et l'importance de ces communautés, de ces moments de partage. Et ouais, je pense que c'est à ce moment-là où j'ai vraiment en tout cas accepté le terme de féminisme et compris l'importance de se retrouver comme ça juste en sororité.
Toi, qu'est-ce qui t'évoque le plaisir comme mot sans forcément penser au plaisir sexuel ?
Plaisir, moi je dirais la douceur, mais ça peut être la douceur tactile, sensuelle, mais aussi gustative dans ce moment-là. Après, comme autre mot, ouais, je dirais des choses fortes, étincelles, je sais, des choses étincelantes comme ça.
Et toi, quel est ton rapport avec le plaisir pour le coup sexuel ?
Bah, c'est quelque chose d'essentiel, je trouve. J'adore découvrir aussi avec l'âge, découvrir autrement, de prendre le temps, de sortir un peu des préjugés que j'avais sur ça quand j'étais plus jeune. Et de découvrir dans chaque relation. Ouais, je trouve ça vraiment essentiel, en tout cas dans une vie de couple ou dans une vie à deux, c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Je trouve que c'est un moment aussi, la sexualité de communication différent aussi, c'est central et je suis plus en paix aussi avec ça, avec les sujets de masturbation aussi qui étaient très tabous pour moi quand j'étais plus jeune. Maintenant d'être plus en paix avec mon corps et du coup dans la relation aussi à deux, beaucoup plus libre et toujours avec beaucoup d'envie de découvrir et de surprises aussi.
Est-ce que c'est compliqué pour toi de jouir ? Ça l'a été ? Ça l'est plus maintenant ?
Mais pour moi, pour le coup, quand j'étais jeune, je pense que j'étais assez curieuse. Alors c'était tabou, donc c'était quelque chose vraiment de caché, de vécu comme négatif, mais j'ai le souvenir d'avoir un besoin un peu vital et incontrôlable de me découvrir, de me caresser et tout ça, donc j'ai découvert, je pense, la jouissance assez tôt. Dans la relation à deux, après, ça n'a pas toujours été le cas dans les premières relations où c'était quand même plus centré sur l'homme, quand même. Où moi, j'étais pas forcément assez à l'aise avec le sujet de la masturbation pour pouvoir montrer à l'autre que je connaissais mon corps aussi. Et maintenant, j'ai de la chance de pas avoir du tout de problème, de bien me connaître. Juste parfois, ça va trop vite. Je pense que je suis un peu précoce de temps en temps, donc de réapprendre aussi à prendre le temps dans ça. Et c'est pas un sujet tabou. J'aime beaucoup maintenant même en discuter entre copines, en famille et tout ça, justement parce que c'est essentiel et c'est beau et c'est naturel. Et j'ai envie que ça soit plus du tout tabou, ce sujet, en tout cas, dans ma vie et pour les autres aussi, si c'est possible.
Qu'est-ce qui, toi, te fait jouir ?
Moi, je suis très sensible, sensitive au niveau du corps. Du coup, j'ai déjà joui, même sans pénétration ou même juste avec des caresses. Parfois, ça peut m'arriver. Alors, ça ne va pas être la même jouissance, mais d'avoir ce sentiment aussi. Et puis après, j'ai beaucoup de plaisirs clitoridiens aussi. Et maintenant, j'apprends aussi à découvrir des plaisirs plus vaginaux ou d'autres sphères. Avant, je trouvais ça problématique, je me rappelle au collège, de dire « moi, je suis clitoridienne, il faudrait être vaginale, mais moi, je suis clitoridienne ». Maintenant, je suis très contente d'avoir cet organe en moi et de le découvrir et qu'il soit un peu plus au goût du jour et normalisé.
Quelle place tu donnes au plaisir dans ta vie sexuelle ou dans ton quotidien ?
J'essaye de rendre ça central. Parfois, j'oublie, notamment dans les moments où ça va moins bien, de prendre du plaisir de toutes les manières possibles, en faisant des choses qui me plaisent, en voyant des choses qui me plaisent, en me baladant, ou après, seule quand je ne suis pas en couple, dans la relation à deux aussi, ça me paraît essentiel, mais j'essaye de vraiment que ça soit d'avoir ces plaisirs au quotidien comme des cadeaux en fait, et comme une dose de bien-être aussi qui est très saine en plus.
Et ces moments de bien-être, comme tu l'as dit, des balades ou des moments pour toi, après tu penses qu'ils jouent aussi sur ton plaisir sexuel ou dans tes rapports ?
Ouais, je pense que quand je suis bien dans ma tête, déjà j'ai beaucoup plus envie de sexualité. Et du coup, je suis aussi plus à l'aise avec mon corps et du coup, ça impacte. Ouais, vraiment, moi, je fais un lien entre mon bien-être psychique et mon bien-être dans la relation à deux aussi. Et du coup, de me faire du bien, en fait, c'est primordial. Même dans la relation sexuelle aussi, j'ai envie de faire du bien à l'autre, mais j'essaye aussi d'avoir de plus en plus un peu cette pensée égocentrée, pas égoïste, mais de se dire que j'ai envie de prendre du plaisir, que c'est important pour moi, et du coup, de dire stop quand j'ai pas envie, mais aussi de pouvoir vraiment vivre ça pleinement et sans me restreindre. Et voilà.
Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a du mal à jouir, une femme, ou qui n'oserait pas trop se découvrir ? Parce qu'il y a aussi encore, même si le tabou commence à se déconstruire, il est encore là.
J'essaierais juste d'en parler de manière naturelle aussi et assez libre. Je trouve que d'entendre des témoignages ou des femmes qui parlent de ça, ou même des hommes aussi, ben, ça montre que c'est normal, que ça fait partie de notre corps et que c'est totalement sain. Et moi, je conseillerais de prendre le temps de se connaître déjà soi-même, parce que ça me paraît essentiel, de se regarder avec un miroir, de pouvoir poser ses questions, de lire aussi. Ben, y a plein de livres super sur ça et assez ouverts. Et de prendre le temps surtout, et d'écouter ses désirs. Et que ben, c'est pas un problème de pas jouir ou de pas bien se connaître. Et juste, c'est pour moi être quelque chose de pleinement gratifiant et plein de bonheur. Et donc de pas se mettre la pression sur ça aussi, de vraiment écouter ses envies. De pas trop médicaliser la chose aussi, parce que ça reste intime. Et alors, parfois il y a des problèmes médicaux, mais avant tout c'est de prendre le temps de se laisser, de se donner de la confiance et de l'amour à soi-même.
Merci à Charlotte pour ce partage. Donc c'est déjà la fin de cette émission sur le plaisir. Pour conclure, je vais vous partager des références de livres que vous retrouverez au planning familial dans notre super bibliothèque. Mmh. Voilà, étant adhérente et adhérent, il y a les possibilités de les emprunter. Nous avons Jouissance Club de June Pla, une cartographie du plaisir. Nous avons ensuite Jouir de Sarah Barmack. Le Béaba du sexe entre meufs et personnes queer de Alison Moon. Au-delà de la pénétration de Martin Page, S'occuper de son sperme de Leslie Barr, entre autres sur les contraceptions masculines. Et je vous partage aussi un spectacle de Claire Mont qui s'intitule Préliminaire pénétration orgasme point d'interrogation, qu'on espère les inviter un jour dans l'Aveyron.
Et oui, merci Maggie. Merci. C'est déjà la fin. Merci encore à Charlotte et Manon pour leur témoignage. Merci à Fiona pour le montage de l'interview avec Nina Faure. Et merci Nico à la technique. Cette émission est rediffusée vendredi à 19h et un podcast sur radiolarzac.org. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de l'actuel. Et je vous rappelle une dernière fois le rendez-vous le 15 novembre pour la projection de We Are Coming à 20h au cinéma de Millau. Bonne continuation.
Merci Sophia, à bientôt.